Alors, Méritier, séance du conseil municipal le jeudi 10 février 2022 à 20h37, enregistrement intégral et sans pause. Il nous faut faire l'appel. Pommaz Valérie, présente. Rouvière Olivier.
Présent.
Rouvière Isabelle.
Présente.
Traclay Vincent.
Présent.
Bonomo Elisabeth, nous avons un pouvoir qui est donné à Isabelle Rouvière, qui l'accepte. Vienno Jean-Marc.
Présent.
Vienno Delphine.
Présente.
Arger Michel, il est sous d'autres cieux, donc voilà. On l'excuse quand même, hein. Bon, d'accord. Julien Christian est excusé et il a donné pouvoir à Jean-Marc Vienno, qui l'accepte.
Oui.
Hernandez Ruiz Angélique.
Présent.
Passarella Victor, est-ce qu'il a donné son pouvoir Non. Bon, on l'excuse quand même. Hein. Ferron Catherine. Auray Patrice.
Attends.
Grumel Estelle. Pas non plus donné son pouvoir. Caropi Damaris.
Présent.
Très bien. Après cet appel, il nous faut approuver le compte-rendu du conseil municipal du 9 décembre 2021. Est-ce que vous aviez des remarques? Donc, si vous n'aviez pas de remarques, je demande l'approbation. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Approuvé. Je vous remercie. Et il est l'heure, comme d'habitude, de désigner le secrétaire de séance. Avec un immense suspense.
On n'a pas dit qu'on votait pour toute l'année.
Non, à chaque fois.
Temps.
Merci Delphine. Sans plus attendre, parce que c'est un gros sujet, je vais laisser la parole à Olivier pour le débat d'orientation budgétaire 2022. À toi, Olivier.
Merci. Donc, comme chaque début d'année, on vous présente le débat d'orientation budgétaire. C'est une délibération qui n'amène pas à un vote. Hein. C'est une information qui est donnée en attendant le vote du budget qui sera proposé au mois de mars. Pour rappel, le vote et la présentation du DOB, en l'occurrence, n'est pas obligatoire dans une commune de moins de 3500 habitants. Néanmoins, dans le cadre du règlement intérieur, tel qu'adopté lors du premier conseil municipal, nous avons choisi de pouvoir le réaliser chaque année, ce que nous faisons donc aujourd'hui. Le DOB y présente plusieurs choses, à la fois le contexte dans lequel on évolue et les grandes orientations de la commune, en attendant les arbitrages qui seront faits lors de la proposition du vote du budget 2022. Sur le contexte, vous avez eu les quelques éléments. J'ai enfoncé un peu des portes ouvertes, mais comme vous le savez, en 2020, la crise de Covid a fortement réduit la croissance au niveau mondial et au niveau français. Forte croissance en 2021 et sans doute forte croissance aussi en 2022, avec toutes les réserves qu'on le connaît aujourd'hui, hein, d'évolution évidemment du Covid, de l'utilisation de l'épargne par les ménages et évidemment des questions d'inflation et d'approvisionnement en matières premières. Il y a également un volet dans le cadre du DOB qui vient présenter le projet de loi de finances, plutôt la loi de finances à ce stade, tel qu'adopté par le Parlement. Pas d'évolution substantielle pour nous, hein, puisque comme vous le savez, la taxe d'habitation et taxe foncière, les réformes ont déjà eu lieu il y a quelques années. On est plutôt aujourd'hui dans une démarche de compensation de l'État de ces différentes mesures. En termes de dotation, également, l'État est à peu près dans le même alignement que 2021. Évidemment, on est en année électorale, ce qui fait que ce n'est pas l'année la plus propice au changement en termes d'évolution. Donc, les différents dispositifs État, que ce soit les fonds de compensation de la taxe sur valeur ajoutée ou la DETR, n'évoluent pas et se repartent sur les mêmes bases. Il en est de même pour la péréquation horizontale, donc la FPIC, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, que la commune paye chaque année pour autour de 50 000 euros. En complément de ces éléments-là, pour ce qui concerne la commune elle-même, comme cela a déjà été indiqué précédemment, on est une commune qui n'a pas une grosse capacité d'investissement, puisqu'on a du mal chaque année à dégager du fonctionnement, plutôt issu des faibles recettes qu'on peut dégager en n'ayant pas de ressources économiques ou d'entreprises très puissantes sur le territoire qui amèneraient de la taxe. Essentiellement, du coup, une des recettes qui viennent, taxes foncières, taxes d'habitation et leur compensation, et puis évidemment les dotations de l'Interco également. À partir de là, la commune, ses moyens budgétaires sont davantage liés aux réserves qu'elle a pu faire les années passées. Les réserves, pour l'essentiel, viennent des économies que la commune a pu réaliser les années précédentes, et puis de la donation qui a été faite il y a 3 ans pour la commune, qui a permis de dégager des capacités d'investissement relativement importantes, permettant en tout cas d'engager un certain nombre de projets, comme on a pu en délibérer un certain nombre déjà, que ce soit les travaux sur la rue Neuve, que ce soit les travaux engagés dans l'école, et puis les futurs travaux qu'on a évoqués à la précédente réunion publique sur le City Stade et les abords du parc. En termes de fonctionnement et d'évolution, on constate plutôt une augmentation des dépenses pour des raisons de traitement de ressources humaines notamment et la compensation d'un décès d'un agent qui a été présenté lors d'un précédent fil de til. Également des dépenses de fonctionnement très liées à l'abattage des arbres, puisque comme vous le savez, il y a eu des arbres qui étaient malades et qui ont été payés du coup l'année dernière en termes de dépenses. Puis un certain nombre d'entretiens d'arbres qui ont nécessité d'être réalisés, qui ont fortement impacté le budget de la commune. Et des dépenses supplémentaires, évidemment, liées à la Covid, que ce soit des dépenses de la cantine et du périscolaire, pas totalement aujourd'hui comblées au niveau des recettes, puisqu'on a encore eu des arrêts de cantine ou de périscolaire du fait de la Covid. En termes d'investissement, mais on ira plus en détail dans le budget qu'on le votera au mois de mars, toujours des investissements relativement importants, même s'ils sont plus faibles que l'an passé. Pas tant qu'on ait fait moins d'engagement d'opérations, mais plutôt que les paiements ont été, pour un certain nombre d'entre eux, reportés à 2022. Donc, ils viendront impacter le budget 2022 et pas le budget 2021. Donc, ça concerne notamment la rue Neuve qu'on va finir de réaliser, les fenêtres et les portes dans l'école, et puis des travaux sur les eaux pluviales également qui ont été reportés sur 2022 en termes de dépenses. En termes de recettes, une augmentation pas neutre aussi au niveau de l'investissement lié essentiellement à la taxe d'aménagement qui est liée aux constructions sur la commune. Et comme vous avez pu le voir, il y a un certain nombre de maisons qui ont été construites, lancées avant notre élection également, et pour lesquelles il y a des recettes qui viennent, qui permettront aussi de réaliser un certain nombre de travaux, même si on n'est pas évidemment sur des montants faramineux, mais c'est quand même des recettes complémentaires pour la commune. En termes d'orientation budgétaire pour 2022, qui seront proposées du coup le mois prochain, les grandes évolutions, c'est évidemment ce qu'a présenté Valérie tout à l'heure sur le PLU, puisqu'on va lancer, la démarche a déjà été lancée, mais qui correspond des premiers paiements de réalisation et d'avancée des travaux dans le cadre de la réflexion du PLU. C'est les travaux qu'on indiquait sur le Stade lui-même en termes d'équipement sportif, puisqu'on avait fait un sondage, donc on réalisera les travaux sans doute cette année. Les alentours du City Stade également, puisqu'il y a un travail à faire, des travaux plutôt à conduire sur le chemin autour du City Stade. Et puis, comme on l'a présenté, des réflexions autour du parc. Donc, on verra si on engage d'ores et déjà des dépenses en 2022 ou ce sera plutôt en 2023 en fonction de l'avancée des premiers travaux pour le chemin. Également sur l'école, des travaux qui continueront à se faire, puisqu'on a fait une première tranche sur les fenêtres et les portes. On proposera du coup de poursuivre les travaux pour une meilleure isolation de l'école. On a fait les combles aussi l'année dernière. Et de la même manière, il y a toujours un certain nombre de problèmes sur les jeux de l'école dans la cour de récréation, notamment des maternelles, qui nécessiteront du coup des travaux à réaliser pour que les enfants puissent avoir des jeux utilisables et de bonne qualité. Un dernier point sur le DOB, sur l'endettement de la commune. Donc un endettement qui n'a pas augmenté depuis qu'on a été élu, puisqu'on n'a pas souscrit le moindre emprunt depuis qu'on est arrivé, en s'appuyant plutôt sur les réserves aujourd'hui de la commune et en étant vigilant à appeler un maximum d'aides financières pour avoir des recettes. Donc on présentera sans doute un budget à l'équilibre le mois prochain en termes de clôture pour 2021. Évidemment, 2022, il sera en équilibre de fait. Et puis on verra les réalisations qu'il y aura. Au niveau des emprunts, un emprunt qui se termine en 2025, qui était pour la place de la mairie, donc qui va permettre aussi de nous libérer des capacités d'investissement, et un emprunt qui va rester très faible jusqu'en 2060, puisqu'on a un emprunt de 100 000 euros qui avait été souscrit pour les travaux des eaux pluviales, qui est sur 40 ans. Donc vous imaginez que les traites annuelles sont très faibles si on divise les 100 000 euros par 40 ans. Un dernier élément sur ce volet-là, c'est les terrains dont dispose la commune. Il y a deux terrains aujourd'hui qui sont portés par l'EPF au nom de la commune. Un terrain sur lequel on a déjà apporté quelques éléments lors de la réunion publique, sur lequel la SEMCODA va présenter prochainement à la commune le bâtiment qui pourrait sortir de terre. Et le deuxième projet sur lequel on est encore en attente de confirmation, mais qui pourrait du coup nous permettre d'avoir une meilleure vision sur la projection budgétaire de la commune, puisqu'on sera au clair sur ces deux opérations aujourd'hui portées par l'EPF, dont une, si elle ne sort pas assez rapidement, pourrait être assez coûteuse pour la commune. Donc voilà au niveau du DOB ce qu'on souhaitait vous présenter. Et on vous présentera, donc comme je disais, le mois prochain, le bilan du budget 2021 et le budget, évidemment, 2022. Et comme je disais précédemment, ça n'appelle pas à vote. Par contre, ça prête évidemment à discussion s'il y a des questions. Sur le budget de la commune, à peu près en fonctionnement, c'est 800 000 euros globalement. Et l'endettement de la commune, aujourd'hui, en capital restant dû, on est à 176 000. Donc on est sur un capital faible. En 2026, on basculera donc à 91 000. Sachant qu'en termes d'annuité, puisque c'est plutôt là que ça se joue globalement, on a 32 000 euros d'annuité aujourd'hui. Et à partir de 2026, sauf, ce qui n'est pas improbable quand même, la souscription d'un nouvel emprunt, on passerait à 3 000 euros. Donc, ce qui devient complètement dérisoire. Donc on est une commune qui est très faiblement endettée aujourd'hui. Comme je disais, on n'a pas souscrit un emprunt de 100 000 euros qui était prévu à la base pour les travaux d'eau pluviale qu'on n'a pas pris, qu'on s'appuierait plutôt sur les réserves de la commune, ce qui a donc été fait. Et aujourd'hui, on n'a pas de projection immédiate d'emprunt, sous réserve évidemment de l'étude qui est en cours pour l'école, qui pourra produire ou non des dépenses évidemment substantielles en fonction des résultats de l'étude. Ouais, les compensations, on ne les maîtrise pas tout à fait, sachant que pour l'instant, on est plutôt toujours en hausse. Globalement, taxes d'habitation, taxes foncières et compensation, si on prend les trois volets ensemble. Donc, on a plutôt une assise aujourd'hui qui est plutôt bonne, sachant que là, ce que je disais, on a eu des taxes relativement importantes au niveau de la taxe d'aménagement avec les constructions. On relance le PLU, donc de fait, ça va être un petit stop aussi sur cette taxe-là. Donc, ça va forcément réduire les recettes par rapport à ça. Et puis on ne sait pas encore aujourd'hui, le nouvel exécutif régional aussi n'a pas encore adopté son régime d'aide pour les communes, qui était plutôt bien sous le précédent mandat, puisqu'on a pu décrocher 50% d'aide pour la seule région sur les fenêtres de l'école. On verra s'il y a un dispositif équivalent qui est proposé.
Oui, il faut quand même rappeler que ce qu'on appelle dotation, ce n'est pas non plus des subventions. Hein.
Grosso modo, la pente, elle sera favorable tant que la structure de la commune n'évolue pas. Enfin, la structure, le rapport habitation-entreprise, grosso modo, n'évolue pas. Et tant qu'on est en progression d'habitation, la taxe augmentera et les compensations avec. Après, sans doute qu'il ne faut pas être complètement naïf de ce qui se passera après la crise Covid ou à un moment donné, quand le gouvernement va arrêter laisser la planche à billets partir, il va bien falloir qu'ils retrouvent des sous et les collectivités seront sans doute contributeurs de tout ça.
Mon information, le montant moyen de la taxe d'aménagement, c'est combien aujourd'hui sur la commune ?
La taxe d'aménagement, elle est à 5%. Mais après, c'est un calcul puisqu'il y a une décote. Les 100 premiers mètres carrés ne sont pas soumis à taxe. Enfin, il y a toute une décote qui se fait. Après, c'est les places de parking, les piscines. Il y a tout un volet un peu particulier, mais on pourra apporter effectivement les éléments que je n'ai pas en tête complètement, mais c'est un calcul du coup qui est maîtrisé par l'État. Nous, on a juste la possibilité de mettre une taxe. Je ne sais plus c'est quoi le mini. En tout cas, le maxi, c'était 5. Et on avait dit qu'au vu des constructions, ça permettait aussi de contrôler à un moment donné les constructions sur le village. Et puis, si ça ne les contrôle pas, à défaut, ça fera des recettes pour la commune pour faire les travaux.
Quel montant ?
Numériquement, ce n'est pas énorme. Hein, c'est 60 000 euros et quelques. Donc, on n'est pas sur des montants. Voilà, c'est ça. Donc ce qui est énorme par rapport à l'an passé, parce que l'an passé, je crois que c'est 28 000. Donc on a une grosse croissance, mais sur un montant qui est, voilà, qui est ridicule, puisque ça ne couvre même pas les travaux de la rue Neuve, si on prend cet exemple-là,
oui, bien sûr.
En termes de dépenses, en termes de recettes.
Okay.
Ouais.
En fait, c'est un calcul, quand on saisit les permis de construire, etc., ça calcule en fonction des superficies qui sont construites, mais il y a des abattements, comme le disait Olivier, et à la fin, quand le pétitionnaire obtient son permis, il a le montant de la taxe qui lui est qui va lui être demandée, quoi, en fonction donc place de parking, superficie, etc. Et c'est vrai que ça c'est beaucoup plus que l'année précédente, mais ça ne représente pas des sommes qui permettent de faire.
On a un exemple, parce que là on a 25 maisons qui sont potentiellement les mêmes, elles sont pas toutes les mêmes.
Elles sont pas toutes dépistées.
On a un chiffre.
Bah, faudrait le recalculer si on voulait. Si tu veux, la taxe d'aménagement, c'est pas la commune qui le calcule, hein, c'est l'État une fois qu'il reçoit les permis. Oui, oui. Oui, on pourrait, non. Sur tac. Enfin, je vais pas le faire là en live en conseil parce que je vais vous dire une bêtise et c'est pas le but. Mais pour une maison, je vous enverrai la plaquette fiscalité, hein, grosso modo. Sur une maison de 160 mètres carrés, la taxe, elle est estimée à 3500 euros s'il y a deux places. Ouais, 100 mètres. De 0 à 100, c'est moitié prix. En fait, 100 mètres carrés, c'est complet. Deux places, hein. C'est 2000 euros la place. Mais c'est pas des 160, ouais, c'est plutôt entre 80 et 120, quoi.
Plus entre 80 et 100, et là, c'est très bas au niveau du calcul, quoi.
Bah, une maison de 100 mètres carrés, c'est 1500 euros, tu vois.
Donc, il en faut
quelques-unes, quoi. Mais là, pour le coup, c'est public, hein, y a des plaquettes qui sont disponibles sur les sites internet, mais je pourrais évidemment vous l'adresser si ça vous intéresse. Si c'est tout bon, on peut passer à la délibération suivante.
Une délibération suivante que nous n'allons pas présenter finalement, que nous allons retirer. Elle vous sera présentée à la fin de ce conseil en tant qu'information, puisque je voulais mal présenter lors de la com générale de vendredi. Je m'en suis aperçue en relisant tout à l'heure. C'était la délibération qui concerne la ZAC des Goucheronnes à la Boisse avec l'avis de demande d'autorisation environnementale. Donc nous avons jusqu'au 25 mars pour délibérer ou pas sur ce dossier. Donc on en reparle à la fin de ce conseil en questions diverses. Donc du coup, Olivier, je te redonne la parole, n'est-ce pas, pour la délibération suivante sur le temps de travail.
Effectivement, toutes les collectivités territoriales doivent adopter le régime des 35 heures exactement, et sachant que les précédentes réformes des 35 heures, hein, vous avez vu, elles sont un peu succédées. Il y avait des jours des mères qui pouvaient exister, divers traitements des temps de travail des agents. La commune, comme toutes les autres collectivités, doit voter ce temps de travail. On n'est pas concerné fondamentalement, puisqu'on n'a pas cette problématique-là. Les agents travaillaient déjà 35 heures, mais formellement, on doit adopter, ou 35 heures, en tout cas, l'équivalent du nombre d'heures qu'ils avaient à faire par rapport aux 35 heures. Et il y avait des congés qui en découlaient, puisqu'il n'y a pas de jours spéciaux du maire réalisés par la commune. Il y a un petit travail qu'on va faire prochainement sur les emplois globalement et sur l'annualisation en particulier. Mais ce sera plutôt une délibération qu'on vous proposera avant l'été, sans doute. Mais sur les 1607 heures, du coup, on vous rappelle dans la délibération le cadre légal, le modalité de calcul pour arriver aux 1607 heures, notre obligation, évidemment, de le mettre en œuvre. Et c'était, évidemment, à compter du 1er janvier 2022. Et cette délibération prend acte de tout ça pour nous mettre bien en conformité avec ces règles-là, mais pas de sujet pour nous, pour les différents postes occupés au sein de la commune.
Collectivités auront un petit peu plus de problèmes, certainement, pour faire passer cette délibération.
On propose d'en délibérer.
Des questions concernant cette délibération. Alors, s'il n'y a pas de questions, elle est soumise à votre vote. Donc, il y a des contre, des abstentions. Adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Isa, je te passe la parole. SIEA, adhésion au groupement de commandes d'audit énergétique.
Donc, le SIEA souhaite apporter une réponse opérationnelle pour faciliter des études énergétiques permettant d'atteindre les objectifs de réduction de consommation d'énergie, notamment dans le cadre du PCAET. Alors, depuis octobre 2019, en fait, nous sommes soumis au décret éco-énergie tertiaire qui impose une réduction de consommation des bâtiments communaux de plus de, enfin des bâtiments tertiaires, pas que communaux, mais enfin tous les bâtiments, à partir de 1000 m² ou d'ensemble bâtiments qui font justement 1000 m². Et nous, on est dans ce cas-là, puisque mairie, salle des fêtes et école font plus de 1000 m² ensemble. Donc nous avons obligation donc, du coup, de diminuer notre consommation énergétique. Donc, pour cela, il faut réaliser un audit énergétique et le SIEA donc, propose l'adhésion à un groupement de commandes pour l'élaboration d'audits énergétiques des bâtiments publics de notre commune. Donc, voilà. Donc, le groupement est ouvert aux communes et aux EPCI, aux établissements publics du département de l'Ain et aux personnes morales de droit privé sous réserve des conditions fixées par l'article L2113-6 du Code de la commande publique. Le coordinateur du groupement sera le SIEA. Il sera chargé d'organiser, dans le respect du droit des marchés publics, l'ensemble des opérations de sélection d'un ou plusieurs prestataires afin de répondre aux besoins exprimés par les membres du groupement. Le coordinateur est également chargé de signer et notifier les accords cadres et marchés subséquents qu'il conclut, ainsi que les avenants éventuels. Les membres du groupement s'assureront de leur bonne exécution pour ce qui les concerne. Donc, on demande le conseil municipal, donc après avoir entendu tout ce que j'ai raconté. doit délibérer, donc est-ce qu'il accepte que les termes de la convention constitutive au groupement de commandes pour la réalisation d'audits énergétiques accepte donc ces termes de la convention, autorise l'adhésion de la commune au groupement de commandes pour la réalisation d'audits énergétiques, autorise Madame le maire à signer la convention de groupement et toute autre pièce nécessaire, autorise Madame le maire à désigner les bâtiments de la commune que la commune souhaite intégrer au groupement pour la réalisation d'audits énergétiques et dans un premier temps à compléter l'annexe liste des bâtiments à auditer et autorise le représentant du coordinateur à signer les marchés accord cadre et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune.
Oui, en fait, donc, c'est le SIEA qui fait les appels d'offres pour pouvoir trouver quelqu'un qui va auditer les bâtiments. Ouais. C'est lui qui fait le travail, quoi. Et donc, nous, on adhère à cette commande.
Ça ne fait pas doublon avec la CCMP ?
Comment ?
C'est la même chose, en fait.
C'est la même chose.
C'est la même chose. En fait, on avait droit à un audit énergétique pour un bâtiment avec la CCMP. Et là, avec ce groupement de commandes, en fait, on pourra avoir droit à un autre audit financé à 50%. C'est ce qu'on avait déjà voté la dernière fois. La possibilité d'être financé à 50%.
Vous voulez que vous réalisez les travaux issus des travaux de
Comment ?
Combien ça a coûté ?
Alors, les audits énergétiques qu'on fait sur les trois bâtiments communaux, là, c'est gratuit. Oui.
Mais il y aura des préconisations.
Il y aura des préconisations.
On est,
après, c'est mieux.
Je ne dis pas qu'on n'est pas tenu de les suivre, ça serait mieux de les suivre, mais.
On n'a pas une obligation, oui et non, parce qu'on a quand même le décret tertiaire qui nous demande de réduire drastiquement nos consommations. Il va falloir faire des travaux à un moment.
Donc, et donc, on a fait isoler les combles à la maison.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a commencé à changer.
On est rentré dans un processus presque un peu guidé jusqu'à la réalisation physique des travaux ou pas.
Alors après, le but aussi donc, de ces audits sur les différentes communes de la CCMP, c'est également de voir qu'est-ce qui nous rapproche, entre guillemets, et voir si après on ne peut pas faire aussi des groupements de bons de commande.
Des actions
voilà, de mutualiser les travaux ou autre pour faire baisser la facture aussi des travaux.
D'accord.
Après, voilà, après, chacun accepte ou pas, mais...
Mais le but, c'est, enfin, l'objectif, c'est ça, hein, puisqu'on a des, on doit réduire notre, nos consommations.
Et pas, et, enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est d'ici 2030, c'est énorme, hein, le.
Il devait nous chiffrer, le coût, enfin, de,
oui.
des travaux à faire.
Oui, en fait, à l'issue de l'audit, en fait, ils vont nous dire, qu'est-ce qu'on doit, enfin. Les pistes de changement, combien ça nous coûte et quelles aides sont mobilisables aussi.
Parce que les deux jours que j'ai passé avec le gars, là, dès qu'il a fait l'audit, là,
oui.
Il a fait quoi alors?
Il a fait quoi? Ben, il a pris toutes les mesures, il a pris les mesures...
C'est dont on parle, il a, donc on va...
Après, il y a différents audits. Là, c'était ce qu'on avait déjà voté. Ce qu'on avait déjà voté. Là, c'est pour avoir des audits supplémentaires. Parce qu'en fait, là, on a trois audits. Après, on a un audit qui est un audit complet qui est financé par la CCMP. Si on veut un autre audit, là, c'est dans ce marché-là. Si on veut un autre audit financé à 50%.
Bon, on n'a rien payé, donc c'est pas gênant, mais ça me paraît bizarre.
Non, mais c'est pas qu'une question très bizarre. Si tu veux, la CCMP nous a proposé l'audit sur un bâtiment qui était gratuit. Donc on l'a fait.
Les trois bâtiments.
Non, en fait, on a un audit. C'est ce que j'essaie de dire. On a trois audits qui est un audit léger. Et après, en fonction de cet audit léger, il y aura un audit plus poussé sur un bâtiment qui est, lui, gratuit, qui est financé par la CCMP.
Et qui nous donnera vraiment quelque chose de précis sur ce qu'on doit faire.
Sur ce qu'on doit faire.
Parce que on parle de nous, c'est un bâtiment, mais en fait, il est tout seul, le bâtiment. Parce que si autrement, on n'a pas les 1000 mètres carrés. Quand on parle de l'école, de la salle des fêtes et de la mairie,
oui.
Il faut tenir compte comme si c'était qu'un bâtiment.
Ça, c'est pour le décret. Mais après, pour ce que la CCMP a décidé, c'est par bâtiment.
Il y a le décret qui nous oblige, mais nous, on n'a pas de bâtiment qui fasse plus de 1000 mètres carrés.
Non, mais c'est bien, donc, c'est pour ça que je vous dis ça.
Voilà.
Non, mais ça ne gêne pas, on n'a pas payé donc, le premier truc, donc c'est pas énorme. Mais...
En fait, le premier audit, il permet juste de lancer l'audit suivant en disant, ben voilà, ouais. Vu de ce qu'il a...
Voilà, on voit que...
Moi, j'aurais pu le faire, hein, l'audit. Hein.
Oui,
mais c'est gratuit, donc il n'est fait par quelqu'un.
Après, c'est des cabinets agréés
non,
qui donnent la procédure pour pouvoir justement faire des réalisations. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas commencer les travaux.
Je comprends bien, mais c'est parce qu'on discute ensemble.
Ouais, bien sûr.
Je suis d'accord, on va le faire. Mais il faut discuter. Il y a des choses quand même où on travaille un peu pour rien. Et puis, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont pénibles.
C'est ça, je comprends. Voilà.
Parce qu'on discute ensemble, on est tous la même équipe.
Ouais.
Voilà.
Vous avez choisi le bâtiment qui sera...
Non, c'est à l'issue de ces trois audits, du coup, qu'il y aura un audit poussé pour un bâtiment. Ce qui a fort à parier, ça soit l'école. Oui, mais par rapport à l'utilisation, je pense que c'est l'école. Vu les problèmes, je pense que c'est l'école. Voilà. Et donc là, c'est pour l'autre audit, si on veut faire un audit supplémentaire financé à 50% par le SIA. Voilà. Donc on soumet d'autres questions? On soumet au vote?
Mais oui, vous en prie.
Je fais.
Allez.
Soyons fous. Alors c'est quoi? Qui s'abstient? Personne. Qui vote contre? Donc,
adopté.
Je cherchais le terme, merci.
À l'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante, c'est la délibération. Alors, c'est en 2020, on a voté une délibération qui nous autorisait à signer une convention avec 30 millions d'amis pour la stérilisation de chats. Alors cette convention, on l'a signée, sauf qu'elle est arrivée, enfin il y a eu un imbroglio administratif, elle est arrivée trop tard à 30 millions d'amis. On a versé l'argent à 30 millions d'amis, mais comme c'était trop tard, 30 millions d'amis n'a pas voulu verser l'argent aux vétérinaires qui avaient stérilisé les chats. Donc, après moult péripéties, que je ne vais pas évoquer ici, nous avons récupéré l'argent de 30 millions d'amis et il vous est demandé d'accepter au jour d'aujourd'hui de payer la clinique vétérinaire pour les 700 euros que nous avions donnés à 30 millions d'amis. On les a récupérés, ces 700 euros vont partir à la clinique vétérinaire de Miribel qui a malgré tout stérilisé les chats en 2020. Ça ne se passera pas pour 2021 parce que les choses ont été faites comme il faut et normalement. Mais pour 2020, il y a eu un petit couac et donc c'est pour ça que nous repassons cette délibération devant vous ce soir pour vous demander donc de bien vouloir accepter que nous payions la clinique vétérinaire qui attend ses sous avec impatience. Voilà. Si vous avez des questions, c'est la clinique donc c'est la clinique vétérinaire de Miribel. C'est exactement ça, mais en fait, on ne peut pas récupérer des fonds et les reverser comme ça. Il faut qu'on vous en informe. C'est la loi, quoi. C'est normal. En plus, c'est normal. Mais c'est vraiment dû parce qu'il y a eu un couac. C'est ce que j'avais expliqué en comme j'ai.
À l'avenir, c'est quelle clinique qui s'occupera de.
Comment?
À l'avenir, pour 2022, par exemple.
Ah, c'est toujours la même clinique. En fait, on a la chance d'avoir deux personnes maintenant sur la commune, Véro et Olivier, pour ne pas les citer, qui sont nos trappeurs. Et je ne sais pas comment ça s'appelle vraiment, qui capturent, font stériliser. Et la clinique vétérinaire de Miribel est partenaire pour pouvoir stériliser les chats. Et donc après, ils sont récupérés ou par Véro ou par Olivier, gardés bien au chaud pendant qu'ils se remettent de la petite opération qu'ils ont subie. Et après, ils sont remis dans leur milieu. Voilà. Donc on a la chance d'avoir deux personnes qui s'en occupent.
Il y a pas de reste aux Finnois dans le coin.
C'est fin, ça se mange sans fin, c'est ça? Merci Jean-Marc. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant cette délibération? Sinon, je la soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie pour la clinique vétérinaire de Miribel. Et je crois que, Olivier, je te rends la parole pour le débat relatif à la protection sociale complémentaire. T'es passionnant ?
Tout à fait. Merci. Donc, effectivement, une ordonnance du 17 février 2021 prévoit et impose aux employeurs publics de financer au moins 50% de la complémentaire santé et au moins 20% de la prévoyance des agents publics, comme c'est déjà le cas dans le secteur privé. Chaque collectivité doit échanger sur ce sujet-là un an après le 17 février 2021. Nous sommes le 10 février 2022. À 7 jours près, nous sommes dans les clous. Donc tout va bien. Nous présentons donc ce sujet-là devant vous. L'objectif étant de vous présenter déjà cet élément-là. L'obligation qui nous est faite, c'est de déployer la prévoyance d'ici le 1er janvier 2025 et la complémentaire santé d'ici le 1er janvier 2026. Oh, on est large. On est large. Pour information aussi, les centres de gestion travaillent tous sur ce sujet-là, évidemment pour les petites collectivités, puisqu'on ne va pas commencer, nous, à chercher un prestataire au niveau de la commune, vu notre capacité de négociation impressionnante pour nos dizaines d'agents. Il est donc proposé que le centre de gestion avance sur le sujet et qu'on puisse effectivement s'appuyer sur leur travail et sans doute le marché qui lanceront, pour voir effectivement ce qu'on pourra proposer à nos agents sur le sujet et puis à quelle vitesse on le proposera. Donc je propose plutôt, dans le cadre de l'échange qu'on a à avoir, de ne pas se positionner fondamentalement aujourd'hui sur à quelle date on sera capable de mettre en place et la prévoyance et la mutuelle, sachant que voilà, c'est évidemment un sujet important et puis on est plutôt sur des agents qui ont globalement des petites rémunérations pour lesquelles évidemment cette aide serait la bienvenue, évidemment. Donc, on sans doute pas forcément à tarder de manière excessive, peut-être pas à jouer la montre jusqu'à 2025, mais en tout cas attendre que les centres de gestion, et notamment le nôtre, aient avancé sur le sujet pour voir effectivement quelle proposition il peut faire et comment on pourra proposer ça derrière à notre niveau.
Vraisemblablement, je crois, ce que j'ai lu dans le...
Interrégional, oui, donc...
parce que je pense plus ils passent un plus gros marché, moins eux, ça va leur coûter. Ils sont sur le coup, enfin, tous les centres de gestion sont sur le coup. L'idée, c'est essayer de mettre en œuvre un peu, comme vous avez dit, avant 2025 et avant 2026. Mais ça ne sera pas fait demain, quoi.
Voilà,
parce
si...
Ça va être un marché public, vu le montant, ça va être un marché public.
Relativement important, sans doute, ouais. Donc au mieux du mieux, on peut imaginer que début 2023, j'imagine, ils aient à peu près les candidats retenus. Et puis après, il y aura la question de comment ils réalisent l'offre. Et puis peut-être sans que les négociations peut-être au niveau du marché. Donc effectivement, peut-être au 1er janvier 2024, on sera en capacité de proposer ça.
Modulable, proposer plusieurs offres. On pourra prendre la prévoyance, la complémentaire, etc. Ça va être un peu à la carte pour chaque commune après. Eux, ils vont proposer quelque chose et après à nous de voir...
Ils vont proposer un package,
voilà.
Il y a différentes options, ouais, voilà. Sans doute.
Donc je pense que oui, il y a le temps de le centre de gestion dans cette proposition.
Vous avez, qui vous a été envoyé la semaine dernière, du coup, la note récapitulative du cadre dans lequel on s'inscrit. Et du sujet, sachant que la note se finit exactement comme on vient de le dire, que le centre de gestion y travaille sur cette année.
Questions sur ce délibération.
Information,
pardon. Donc, il n'est pas soumis à vote. Donc, nous n'avons plus, si vous n'avez pas de questions sur le dossier, donc de délibération. Donc, je vous propose de revenir sur l'information concernant la ZAC des Goucherolles. Parce qu'en comme j'ai, je vous ai présenté. On a parlé du dossier, on l'a regardé, on a vu les plans, etc., etc. Mais moi, je pensais que c'était l'avis de dépôt de la demande d'autorisation sur laquelle on se prononçait. En fait, là, il faut se prononcer ou pas pour notre accord sur le projet. Donc, la ZAC des Goucherolles, je resitue comme on l'a vu vendredi dernier. Il y a pas mal de gens d'ailleurs qui posent des questions sur cet endroit. Donc, vous avez le centre des pompiers qui se construit au niveau du rond-point et juste au-dessus, au niveau de la, après la pizzeria par là et le centre équestre. Donc vous avez toute cette partie qui maintenant s'appelle la ZAC des Goucherolles et sur lequel va venir s'implanter une ZAC, ZAC des Goucherolles. Et donc le projet, c'est tout le dossier qu'on a vu vendredi et qui est là et qui est consultable, donc qui est soumis à enquête publique depuis ce lundi jusqu'au 11 mars. Donc tout le monde peut venir consulter en mairie le registre et puis noter ses observations. Et en fait, moi je souhaitais que... c'est vrai qu'on a présenté le projet vendredi, qu'on a regardé, etc., mais on n'est peut-être pas allé bien dans le détail. Et je trouve que ça mérite... Alors, le tout, ce n'est pas de s'opposer du tout à ce qu'a fait, ce que va faire la 3CM et tout ça, mais à être bien conscient de ce qui va se construire sur cette ZAC, puisque la ZAC des Goucherolles, c'est un projet quand même qui est très ancien, donc sur une grande superficie, et qu'en fait, là, on va construire quand même 75% de bâtiments logistiques. C'est vraiment et sur 53 000 mètres carrés. Donc c'est pas un petit bâtiment, c'est pas rien. Donc ça entraîne aussi un volume de circulation. Et en fait c'est pour de la logistique. Alors il n'est pas précisé dans le projet qui s'installe, mais bon il va y avoir des produits alimentaires, des biens de grande distribution, des aliments pour animaux, des biens d'équipement de la maison, des biens culturels, du e-commerce, des biens d'équipement industriel. Donc ça risque, enfin il faut être conscient, et c'est pour ça que je veux qu'on prenne le temps. On a jusqu'au 25 mars pour délibérer ou pas. On n'est pas obligé de donner un avis. Si on répond, si on délibère pas, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce projet, mais on pourrait peut-être délibérer pour dire, pour faire quelques remarques, etc. Et je pense qu'on n'a pas pris le temps la semaine dernière de bien regarder ce projet, donc c'est pour ça que, étant donné qu'on a un peu de temps, je pense que ça vaut le coup quand même de le regarder de plus près, voir si ces bâtiments, eh bien, je sais pas, est-ce qu'il y a des panneaux photovoltaïques dessus, est-ce que...
Et vu la superficie...
vu la superficie, il y a un impact. Et donc là, c'est l'ouverture de cette enquête publique, c'est l'enquête environnementale. Et donc, c'est la société Pitch Promotion qui a déposé donc cette demande d'autorisation environnementale, qui donc est ouverte du lundi 7 février jusqu'au 11 mars inclus. Donc voilà, nous on en reparlera, je pense, en Conurba un petit peu plus précisément. On regardera ça un peu plus dans les détails. Et puis les autres élus, si vous souhaitez, parce que c'est un petit peu volumineux à vous faire passer tout ça, il y a une clé qu'on peut... vous passez pour regarder tous ces documents, mais je pense que ça va aller...
Il y a aussi un lien, je crois, sur Internet.
Il y a un lien sur Internet, mais je pense que ça vaut le coup quand même. Là, on l'a reçu la semaine dernière, et c'est vrai qu'on l'avait mis comme ça en délibération, mais je pense que ça vaut le coup quand même qu'on se pose un petit peu plus dessus, et puis qu'on regarde de plus près pour savoir ce qu'il va avoir à côté de nous quand même, hein, parce que c'est de l'autre côté donc, de la future caserne des pompiers. Et c'est quand même...
C'est
aussi grand que vente privée.
Ça fait 50... Enfin, il y a plusieurs lots. Le bâtiment C fait 30 000 mètres carrés.
Oui, 64 000 mètres carrés, le C.
Non. Alors ça, c'était peut-être dans le projet. Hein. Attention. Hein. Ça, c'est vraiment ce qui est effectif. Mais ils sont collés hein, dans tous les cas parce que ça fait 25 000 plus 30 000. Ça, c'est les deux gros bâtiments qui sont donc destinés à... c'est des plateformes logistiques, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc voilà, il faut peut-être qu'on regarde un peu plus le projet, voir si le bâtiment, hyper vertueux, si, comme je dis, il y a des panneaux photovoltaïques, comment on récupère l'eau. Alors par contre, il y a tout un volet paysager, hein, parce que c'est vrai que ça, ils en ont tenu compte quand on regarde un petit peu les plans, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc c'est vrai qu'ils en font un lieu vraiment très...
Il y a déjà des panneaux photovoltaïques.
Comment ?
Il y en a déjà, des panneaux photovoltaïques.
Il y en a déjà sur l'espace que la 3CM a posé, sur le bâtiment de... Alors je ne sais pas, de commercialisation ou quoi, c'est vrai.
La zone des bûcherons, ça s'appelle l'éco-parc.
Oui, c'est l'éco-parc, mais l'éco-parc, c'est bien de donner le nom, mais voilà quoi. Après encore une fois, c'est pas...
Oui, mais c'est un éco-parc, mais avec je ne sais combien de centaines de camions qui vont passer,
Oui, non, mais...
T'as dit le parc, mais t'as pas dit le passage autour.
Ouais, c'est
juste le nom et les panneaux photovoltaïques qu'ils ont, et ils ont le nom déjà.
Oui, c'est ça. Non, mais encore une fois, c'est pas de critiquer ou de... Mais c'est vraiment d'être bien conscient de ce qui va se faire. Et que des bâtiments logistiques comme ça, ça amène un flux de camions qui sont, et de circulation.
Ils ont quand même beaucoup moins de chance qu'ils sont vraiment à la sortie de l'autoroute.
Oui, ils sont à la sortie de l'autoroute, mais n'empêche que les deux ronds-points, ils prévoient tout un endroit paysager avec pistes cyclables à l'intérieur, chemin piétonnier et tout ça. Mais si, une fois que tu es dans le parc, tout va bien, mais quand tu en sors, si tu trouves au rond-point où tu as des camions, c'est pas simple non plus. Quoi. Donc,
nous, ça va nous amener plus de pollution sur la partie... il y aura plus de camions.
Qui va passer sur l'autoroute.
Plus ceux qui vont se foutre dedans et qui vont venir avec Parkhill pour aller là-bas.
Ça peut arriver aussi.
Comme on a du temps et que c'est aussi, bien que, je sais pas, les habitants viennent consulter parce que c'est vrai qu'on voit plein de mouvements de terrain, etc. Ouais. La consultation, donc pour le public en tout cas, c'est jusqu'au 11 mars en mairie. Et puis il y a un lien donc pour aller voir directement sur Internet. Comment ?
Le lien, il est où ?
Alors, le lien...
Sur Internet, sur Google, pardon. Le projet Zac des Boucheronnes.
Ouais.
Zac des Boucheronnes, c'est pour dessus direct.
Ouais. C'est ça. Ouais.
c'est sur la commune de La Boisse.
C'est La Boisse. C'est
la, la commune de La Boisse est favorable au projet.
Alors, mais la commune de La Boisse, elle a donné le permis de construire.
Voilà.
Donc,
pourquoi il peut émettre un avis?
Parce qu'il y a une enquête environnementale, c'est l'étude d'impact environnemental. Donc, sont concernées la commune de Niévrose, la commune de Thil et la commune de Ballan et Montluel.
D'accord. Mais quel poids on a dans cette enquête, en fait?
Parce qu'il y a un périmètre autour de la zone.
C'est le périmètre autour de la zone. Si on disait qu'on était contre, je ne pense pas que ça change la face des choses. Mais ce que je veux dire, on peut faire quand même des remarques sur le bâti. On peut dire ce qu'on a à dire, puisqu'on nous demande notre avis. Je pense qu'autant prendre le temps de regarder bien les documents et de donner, un avis.
Peut-être que tu pourrais remarquer certaines choses.
Ou des signalisations.
C'est une enquête publique, donc les remarques peuvent être prises en compte par le commissaire enquêteur. Quoi, hein. C'est tout simplement ça. Quoi. Mais c'est bien de le faire en conscience. Quoi. Voilà. C'est pas du tout pour s'opposer au projet.
Il y a un document d'enquête publique assez complet sur Internet qui a été réalisé en 2019. Donc.
Oui, mais c'est vraiment ce qu'on peut consulter, c'est le permis et l'étude. Parce que ce qui a été fait en 2019, ça a pu être réétudié déjà. Ouais. Ça, c'est les documents que nous, on peut consulter, qui sont vraiment ceux qui ont été acceptés par la commune de La Boisse et portés par la 3CM, hein, puisque c'est la 3CM, bien évidemment, c'est la compétence de la communauté de communes, la 3CM, de porter le projet.
Dans une ZAC, il aurait pu y avoir une vingtaine d'entreprises, mais là, il va en avoir qu'une. C'est arrivé. C'est pas la même chose.
Oui, puis avec une activité particulière. Quoi. Ouais.
Oui, c'est ça. C'est pas comment dire. C'est pas de l'entreprise. Voilà. C'est ça.
Fourmilière.
Peut-être.
On va ressembler aux abords de Saint-Ex, quoi, bien sûr. Des pôles logistiques un peu partout. Ouais.
Si c'est de nuit, si c'est peut-être de nuit, s'ils font les trucs la nuit, si ça dépend. Comme je disais tout à l'heure, tous ceux qui se foutent dedans, là, les camions qui passent dans Thil à l'heure actuelle, il se peut qu'après, il y en ait un peu plus.
Voilà, il y a moins de chance hein, quand même. Hein,
parce qu'il y aura peut-être une autre signalisation.
C'est sorti d'autoroute. Mais malgré tout, ça engendre une pollution. C'est évident, quoi. C'est un vieux projet quand même, la ZAC des Goucheronnes. Moi, je ne savais pas la finalité des bâtiments qui allaient se construire, parce qu'on peut tout construire finalement dans une ZAC. Hein, donc c'était pour ça, pour prendre le temps de regarder cette enquête.
On va y avoir sur les documents, mais il y a effectivement dans l'enquête publique des estimations sur le trafic véhicules légers et poids lourds aussi estimés. C'est des projections, hein, mais. J'ai pas l'unité là. Je parle pas de.
Et ça dit quoi?
429 poids lourds, mais je sais pas si c'est jour, semaine, année, donc. Plus dans
les tailles. Alors, année, ça m'étonne.
À l'heure.
Il y a des projections de trafic, voilà. Vous verrez.
Sous de la caserne des pompiers, il y a aussi un projet de ZAC.
Alors, à côté de la caserne des pompiers, il y a le prolongement des cèdres. Ouais. Donc là, c'est la ZAC de Niévrose qui va venir jusqu'aux pompiers.
Jusqu'aux pompiers.
Ouais.
Et au parking de covoiturage.
Et derrière, ouais, le parking de covoiturage, exactement. Ouais, le quartier va bien se.
Aujourd'hui, je peux te dire qu'ils ont posé un sacré panneau d'information sur le permis de construire et qui est monstrueux, ce qu'ils ont mis là.
Sur les cèdres sur les Goucheronnes. De toute façon, il y a
déjà leur permis, ils ont tout.
Ah oui, mais le permis, ils l'ont, bien sûr. Oui, non, mais ça.
Il n'y avait pas à un moment donné le train, la déviation là.
Alors le Céphale. Déjà, en fait, quand on lit les documents, alors il faut relire parce que normalement, il y a l'amendement Dupont qui dit qu'on doit construire à 100 mètres de l'axe de l'autoroute, et là, ils ont demandé une dérogation pour construire un peu plus près. Voilà,
le Céphale, il passait pas par là, hein?
Normalement, si. normalement si. Mais moi là, je suis pas trop une spécialiste de, du secteur là-bas, hein, mais il me semble. Hein, mais après, je pense quand même qu'ils ont, si les services se sont de l'État et de la commune se sont déclarés favorables, c'est qu'ils ont tout regardé et tout étudié. Hein, je pense que
ça
de ce côté-là.
C'est aussi une astuce pour pas que ça se construise ici et que ça se construise plus loin.
Céphale, il ne devait pas tout à fait passer là. Il est passé beaucoup plus bas. Il devait passer sur les pneus là. Il y a les pneus.
Oula. Ah ouais, c'est
là. Ouais, il passait sur les pneus. Parce que les pneus, c'était tout rasé, le Trocéphale. Il passait là et après, il passait plutôt sur Nivrose et il ressortait plus loin là.
Ouais,
c'est
Nivrose
aussi haut que ça.
Heureusement que c'est abandonné.
Enfin voilà.
Ouais, les informations là sur le trafic, je l'ai trouvé dans le document. Donc,
trafic info en direct.
Ça a peut-être évolué, hein, peut-être dans les documents que vous avez sont plus précis. Il y aura 100 quais de chargement prévus dans cette zone. Donc ils sont partis sur l'hypothèse maximale de 400 poids lourds par jour et 500 véhicules légers par jour aussi. Voilà, avec donc un report du trafic sur la route de Ballan, seuls 10% de ces flux projetés sont concernés. Bon, mais 10% de 400 plus 500, c'est-à-dire 900 véhicules, ça fait quand même 90 véhicules pour additionner. Voilà, bon, on peut s'attendre à peut-être plus de camions. Voilà, leur projection, ça donne ce chiffre de 400 poids lourds toujours dans le coin.
Alors après, donc, il donne simplement les familles de produits, donc produits alimentaires, épicerie, y compris liquide alimentaire, non alcoolisé, lait, huile, jus de fruits, vin et alcool de bouche, produits secs, biens de grande consommation, aliments pour animaux, biens d'équipement, etc. Donc, est-ce que ça dessert que les moyennes surfaces du coin? Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il y a quand même des produits alimentaires dedans, hein, d'après ce qui est écrit.
Bon. Parce que Leclerc, ils ont leur centre de distribution.
Qui est à
Saint-Ex.
C'est comme un peu Intermarché, la centrale qu'il y a.
Ouais.
C'est plus, hein. C'est plus, hein.
Il y aura beaucoup d'offres d'emploi, du coup. Oui, il y a ça aussi. Il y aura du travail pour tout le monde.
Bien sûr. Bien sûr. C'est la réussite. Voilà, donc c'était pour qu'on puisse prendre un peu plus de temps pour regarder de plus près. Mais déjà, ne serait-ce que pour voir comment les bâtiments sont construits, ce qu'ils ont prévu comme sorte de bâtiment, etc. Si c'est vertueux, etc. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Eh bien, je vais lire... Le petit message qui va bien. Mérite-t-il, fin de la séance du conseil municipal le jeudi 10 février 2022 à 21h29. Stoppez l'enregistrement.